Bonjour.
J'ai intitulé ce message « Priez sans cesse ». C'est d'ailleurs le dernier texte que nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. C'est une parole qui peut paraître forte. Priez sans cesse. Quand on lit cette parole, peut-être la première fois, on se dit « Mais comment puis-je faire pour prier sans cesse ?» On va peut-être penser, ça c'est bon pour les vacances, quand je suis en vacances. C'est bon peut-être pour ceux qui sont en retraite, qui peuvent prier sans cesse. Évidemment, Jésus lui-même était occupé toute la journée. Nous comprenons donc que prier sans cesse, ça ne veut pas dire prier en permanence, du matin au soir et du soir au matin, mais c'est plutôt vivre dans une attitude de prière. Vivre dans une attitude de relation avec Dieu. Vous savez que le chrétien, c'est quelqu'un qui entretient avec Dieu une relation. On dira une relation personnelle, parce que dès l'instant où Dieu nous sauve, nous devenons des enfants de Dieu, et nous pouvons très bien imaginer la relation entre Dieu et chacun d'entre nous, ses enfants, comme la relation avec un père et ses enfants. Est-ce que l'enfant va parler tout le temps à son père? Non. Bon, c'est vrai qu'il y a des enfants plus bavards que d'autres. Mais bon, mettons à part ce côté-là des choses, l'enfant ne va pas passer tout son temps à parler avec son père. Mais il va être libre de lui parler quand il en a besoin. Il va respecter, bien sûr, le travail que fait son père. Il ne va pas forcément déranger son père tout le temps. Mais il va se sentir la liberté de prier, de parler à son père, pardon, chaque fois qu'il en a le besoin. Et son père va l'écouter. De même, son père lui parlera chaque fois qu'il a besoin. Dans l'Évangile et dans le Nouveau Testament, nous voyons qu'il y a beaucoup d'exhortations comme celle-là. L'exhortation à prier sans cesse est agrémentée d'exhortations à prier d'une certaine manière. Vous savez que dans le domaine de la prière, le modèle suprême, c'est Jésus. Parce que Jésus a vécu sur la terre comme chacun d'entre nous, dans un corps humain, et il nous a donné un modèle de la manière dont nous devons agir, dont nous devons nous comporter. Jésus a donné sa vie pour tout le monde, mais il n'a pas donné sa vie seulement sur la croix, en sacrifice pour nos péchés. Il a aussi donné sa vie au quotidien. Au quotidien, il nous a donné un exemple de la manière dont nous devons vivre. Et cet après-midi, j'aimerais que nous nous arrêtions pendant quelques minutes, les minutes qui nous restent, sur, premièrement, la manière dont Jésus a prié. Parce que Jésus, quand il était sur terre, a prié. Quelqu'un un jour m'a dit, mais pourquoi est-ce que Jésus avait besoin de prier ? Puisqu'il était le Fils de Dieu, puisqu'il était Dieu. Mais je crois que Jésus a voulu nous donner un modèle d'abord, c'est que nous devons prier Dieu parce que nous l'aimons, parce que nous le connaissons. On pourrait dire, mais pourquoi est-ce qu'un enfant parle à son père ? Parce que c'est son père. Parce qu'il y a dans la nature même de l'enfant et du père le besoin d'être en communication permanente, en communion l'un avec l'autre. Jésus priait son père parce qu'il l'aimait. Et quand on aime quelqu'un, on se parle. Quand on aime quelqu'un, on agit d'une manière à lui montrer qu'on a envie d'avoir avec lui une communion. Nous voyons dans l'Évangile, mais nous n'avons pas le temps de lire tous ces textes, mais l'Évangile de Luc, dans lequel nous avons lu le premier texte tout à l'heure, l'Évangile de Luc nous montre que, à plusieurs reprises, Jésus a prié dans certaines circonstances. Par exemple, dans Luc chapitre 3, verset 21, il nous est dit que quand Jésus s'est fait baptiser, là encore pour donner un exemple d'humilité et d'obéissance à Dieu, Jésus, pendant ce qu'il était baptisé, a prié. Un peu plus loin, au chapitre 4 et au verset 42, nous lisons que de bon matin, et il semble que Jésus le faisait souvent cela, de bon matin à l'aube, avant que la vie reprenne ses droits, que l'agitation reprenne, eh bien Jésus se levait et allait prier dans un endroit désert, c'est-à-dire un endroit tranquille pour ne pas être dérangé. Un peu plus loin, dans Luc chapitre 6, verset 12, nous lisons que Jésus un jour a passé toute la nuit à prier. Toute la nuit à prier. Pourquoi ? Semble-t-il parce qu'il avait une décision importante à prendre. Et vous savez que quand nous avons des décisions importantes à prendre, il est important de passer du temps dans la prière, afin d'avoir la pensée de Dieu, afin que Dieu nous conduise, afin que Dieu nous inspire, afin que Dieu nous donne les idées essentielles pour prendre nos décisions. Jésus a prié pendant toute la nuit parce que la décision qu'il devait prendre, et nous le voyons dans les versets qui suivent, après Luc 6, 12, 13, 14, nous voyons que Jésus a décidé, après avoir passé toute la nuit en prière, de choisir 12 hommes parmi tous ceux qui le suivaient d'habitude, à qui il allait confier une mission spéciale. Et l'évangile de Luc nous dit que ces hommes-là, il les a appelés apôtres, c'est-à-dire des gens qu'il allait envoyer, et qui, à l'exception bien sûr de Judas, ont ensuite accompli la mission qui consistait à prêcher l'évangile, à prier pour ceux qui étaient malades, à diriger l'Église après le retour de Jésus au ciel. Nous avons d'autres textes encore dans l'évangile de Luc qui nous montrent Jésus en prière. Mais ces textes-là nous montrent tout simplement que dans toutes les situations de la vie, Jésus priait. Et cela nous donne un modèle, parce que, et c'est pour cela que lorsque, au début du texte qui a été lu, le premier texte, le plus long, Luc chapitre 11, versets 1 à 13, nous voyons que Jésus priait, et lorsque Jésus a eu fini de prier, les disciples se sont approchés de lui et lui ont dit « Seigneur, apprends-nous à prier ». Sous-entendu, Seigneur, apprends-nous à prier comme toi. C'est un bon désir de vouloir prier comme Jésus. Alors, dans cette deuxième partie, maintenant, j'aimerais que nous voyions ensemble quatre éléments de la prière comme celle de Jésus. Quatre éléments de la prière comme Dieu aime que nous prions. Le premier point, je crois que c'est que quand nous prions, nous devons d'abord être conscients du fait que nous parlons avec Dieu. La prière, ce n'est pas un acte rituel. Je me souviens quand j'étais enfant, j'avais à peu près 10 ans. Nous allions avec mes parents en vacances au bord de la mer, sur la côte atlantique, et mes parents louaient un petit appartement, une petite maison au bord de la mer, pas très loin de la plage. Et une certaine année, la maison qui était juste à côté, les murs se touchaient, était occupé par un couple qui avait deux garçons. Et tous les soirs, vers 9-10 heures du soir, avant d'aller se coucher, ces deux garçons, visiblement, devaient faire leur prière. Mais ils priaient d'une manière très particulière. Je ne sais pas si je pourrais les imiter, parce que je ne me rappelle plus ce qu'ils disaient dans leur prière, mais c'était du style « Seigneur, nous te remercions pour la journée que nous avons passée, Seigneur, nous te remercions pour... » Et ils parlaient à toute vitesse. Ça durait environ 5 minutes, puis à la fin on entendait « Amen ». Et à chaque fois que je lis ce texte de l'Évangile où Jésus dit « Quand vous priez, dans l'Évangile de Matthieu chapitre 6, quand vous priez, ne multipliez pas les vaines paroles, parce que ce sont les non-croyants qui prient comme cela. » Et il croit que parce qu'il multiplie les paroles, et on pourrait dire il les multiplie à vitesse grand V, il croit à cause de cela, parce qu'il prie longtemps et vite, et en utilisant beaucoup de paroles, qu'ils vont être entendus par Dieu. Alors je ne sais pas si ces deux jeunes garçons, qui étaient nos camarades de jeu pendant les vacances, comprenaient vraiment ce qu'ils faisaient, mais probablement qu'ils le faisaient parce que leurs parents leur disaient « il faut prier avant d'aller se coucher ». Jésus nous a enseigné que ce n'est pas la multiplicité de nos paroles qui fera qu'il nous entend mieux. La première condition, c'est d'abord que nous sachions que quand nous prions, nous entrons dans la présence de Dieu. C'est pourquoi dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6 et au verset 6, Jésus dit ceci. Jésus dit « Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie, ton père qui est là dans cet endroit secret, et ton père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Récompenser quelqu'un qui prie, il n'y a pas de meilleure méthode que de lui accorder ce qu'il demande. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, nous lisons cet autre texte, dans Hébreux chapitre 11, verset 6. « Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Alors, comment est-ce que Dieu peut mieux récompenser... Attendez, j'ai un petit problème technique. Bon, c'est bon. Ça va peut-être tenir un peu. Comment est-ce que Dieu peut récompenser ceux qui le cherchent, sinon en se laissant trouver, hein, quand on cherche quelque chose, la récompense que l'on peut avoir, et c'est pour ça qu'on cherche, c'est qu'on sait qu'on va trouver. On espère, en tout cas au départ, qu'on va trouver. Et quand on trouve, on est content, parce qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. Première condition pour bien prier, prier Dieu, savoir que lorsque nous prions, nous sommes dans la présence de Dieu. C'est plus important encore que ce que l'on croit. Parce que si nous prenons conscience du fait que lorsque nous prions, Dieu est là, nous aurons beaucoup plus confiance dans ce que nous allons demander et dans la réponse à notre prière. La deuxième condition, c'est ce que nous avons lu dans l'Épître de Jacques tout à l'heure, au chapitre 5 et au verset 16, dans Jacques 5, 16, c'est aussi un texte très important. Il nous est dit... La prière fervente d'une personne juste, c'est peut-être pas tout à fait la même traduction, mais c'est le même sens, la deuxième partie du verset. Là, c'est la prière fervente du juste a une grande efficace, et là, j'ai la prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Il y a une autre traduction qui dit, je crois, la prière du juste, quand elle est faite avec ferveur, a une grande puissance. Quel est le mot important ici ? À part le fait qu'il s'agit de la prière du juste, c'est-à-dire de celui que Jésus a justifié de ses péchés, eh bien, c'est le fait que si la prière est faite avec ferveur, elle a beaucoup de puissance. Nul doute que mes deux amis, quand j'étais jeune, n'avaient pas une grande ferveur. Quand on prie à toute vitesse, comme pour se débarrasser d'un devoir que l'on n'aime pas trop faire et qui est, pardonnez-moi l'expression, plutôt une corvée qu'un plaisir... Alors on se dépêche, hein. Quand on a quelque chose à faire et qu'on n'aime pas, et qu'on sait qu'on doit absolument le faire, alors on le fait en vitesse, et puis après comme ça on n'en parle plus. Mais souvent on le fait mal, parce qu'on le fait très vite comme pour s'en débarrasser. L'apôtre Jacques dit ici, la prière du juste, la prière fervente du juste, la prière du juste du chrétien donc qui est faite avec ferveur, elle a beaucoup de pouvoir, elle a une grande efficacité. La ferveur, c'est l'énergie. Dans le texte original de la Bible, vous savez que la Bible a été traduite du grec, enfin le Nouveau Testament, du grec, en français et dans toutes les autres langues. Il est dit que la prière, c'est le mot énergique qui est employé. Donc, on aurait pu traduire littéralement, la prière énergique du juste a une grande efficacité. Vous savez toute la différence qu'il y a entre quelqu'un qui est énergique et quelqu'un qui ne l'est pas. En général, on aime bien les gens qui sont énergiques. On n'aime pas trop les gens qui sont... Qu'est-ce que c'est le contraire d'énergique ? Mou, amorphe, apathique. Hein, comme un enfant qui rentre de l'école et qui doit faire ses devoirs. Je n'ai pas envie de faire mes devoirs. Je ne comprends rien. Alors il commence à prendre son cahier doucement. Il écrit, puis il n'est pas convaincu. La prière dont Jésus parle ici, dont Dieu parle ici, dont l'apôtre Jacques parle ici, c'est tout à fait le contraire. C'est une prière que l'on fait parce qu'on sait que Dieu est là, parce qu'on sait que Dieu nous écoute, parce qu'on sait que Dieu est vivant, parce qu'on sait que Dieu peut répondre et veut répondre à la prière. Pourquoi ? Parce que nous sommes justifiés, nous sommes des justes. C'est de nous qu'il est parlé ici. Et si nous prions avec ferveur, c'est-à-dire avec foi, avec conviction, avec énergie, avec toute sa force, Alors, c'est que on sait quelque part que Dieu va nous répondre. Rappelez-vous cet épisode où Jésus, dans l'évangile, où Jésus vient voir Marthe et Marie, qui l'ont fait venir parce que leur frère Lazare est malade. Et quand Jésus arrive chez Marthe et Marie, 4 jours plus tard, il apprend que Lazare est déjà mort. Et donc, je résume, Jésus va se rendre avec Marthe et Marie au tombeau où est enterré Lazare. Et Jésus, lorsqu'il prie, dit « Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu m'exauces toujours. Je sais. » Jésus n'a pas dit « Je crois, je pense, j'espère que tu m'exauces. » Jésus dit « Je sais que tu m'exauces toujours. » Cela, c'est la conviction. Cela, c'est la ferveur. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible de la ferveur, de la conviction. Nous voyons par exemple Abraham dans le livre de la Genèse qui prie un jour pour son neveu Lot alors que Dieu a annoncé qu'il va détruire la ville de Sodome et la ville de Gomorre. Et Lot, sa femme et ses filles habitent à Sodome. Et Abraham va prier pour Sodome et Gomorre pour que Dieu ne détruise pas les villes. Et vous savez combien de fois Abraham va prier d'abord en disant « Seigneur, mais s'il y a 50 justes, à Sodome et Gomorre. Est-ce que tu vas détruire la ville ?» Et Jésus dit oui. Dieu dit oui. « Seigneur, s'il y a 40 justes. » Et Abraham va continuer. Et il va s'arrêter jusqu'à la fin à 5. « Seigneur, s'il y a 5 justes, est-ce que tu vas détruire la ville ?» Et Dieu va la détruire parce qu'il n'y en a que 4. Qu'est-ce qui se serait passé si Abraham, on peut imaginer, si Abraham avait dit « Seigneur, s'il n'y a qu'un seul juste. » Mais Abraham s'est arrêté à 5. Mais Abraham a insisté. Un autre jour, nous voyons Moïse, plus tard, intercéder, prier avec ferveur pour le peuple d'Israël, parce que Dieu dit « Maintenant, je vais détruire ce peuple parce qu'il ne m'obéit pas. » Et Moïse va prier Dieu en disant « Seigneur, plutôt que tu détruises ce peuple, enlève mon nom de ton livre. » Ce qui signifie « Seigneur, je suis prêt à aller en enfer si à la place tu sauves mon peuple. » Il est difficile de prier avec plus de ferveur et plus d'amour. Voilà des exemples de prière avec ferveur. Le troisième point, c'est que pour prier avec succès, il faut prier, j'ai écrit ici, avec intensité. Avec ardeur. Dans le texte de Actes 12, verset 5, vous voyez ce qui est écrit en bas, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est un texte intéressant parce que selon les traductions, je ne parle que des traductions françaises parce que je ne lis pas toutes les langues de la terre, mais en français nous avons différentes traductions et certaines traductions disent l'Église priait avec ardeur. Il y a même une traduction, je crois que c'est le français, la parole de vie, qui dit « L'Église priait sans cesse, c'est à peu près la même chose qu'ici, pour lui. » Il y a dans ce texte l'idée d'une véritable tension. Quand nous prions, nous ne devons pas simplement être conscients du fait que Dieu est là, nous ne devons pas seulement prier avec énergie, avec persévérance, nous devons prier aussi avec ardeur, en étant pleinement concentrés sur ce que nous demandons. Si nous sommes convaincus, nous serons aussi persuadés. Il y a comme une idée de tension. L'apôtre Pierre était en prison, pourquoi ? Parce qu'il avait prêché l'évangile. Quelque temps avant, le roi Hérode avait fait exécuter, décapiter Jacques, l'un des apôtres. Puis il avait fait arrêter Pierre et Dieu seul sait ce qu'il avait prévu de faire pour Pierre, probablement de le décapiter lui aussi. Mais il est dit que pendant que Pierre était en prison, bien gardé par les gardes, l'Église priait constamment pour lui. L'Église était concentrée et priait pour Pierre tous les jours et probablement un temps très long chaque jour, probablement qu'il y avait peut-être même une équipe qui priait en permanence pour Pierre, pour que le roi Hérode ne le fasse pas exécuter. Et nous savons qu'après, Pierre a été libéré. Prier avec ardeur, prier en étant tendu vers le but, concentré sur ce but, c'est très important. Et puis, il y a un dernier point que nous avons lu tout à l'heure dans l'évangile de Luc, au chapitre 11, qui est intéressant parce qu'il y a là une expression assez curieuse qui est employée. C'est lorsque, nous l'avons lu tout à l'heure, c'est lorsque Jésus parle de cette histoire d'un ami qui vient au milieu de la nuit réveiller son ami parce qu'il a de la visite à la maison. Ce sont quand même des amis curieux, hein, des amis qui arrivent à minuit. Hein, je ne sais pas si vous avez des amis qui arrivent comme ça à minuit. Bon, ça arrive quelquefois. Moi, j'ai un ami qui m'a réveillé comme cela à 11h30 du soir, un jour, alors je dormais paisiblement. Et je me souviens, notre garçon, notre aîné, avait quelques mois. Et tout d'un coup, le téléphone sonne. Et vous savez, quand vous avez des petits-enfants, de jeunes enfants, il y a une chose que vous n'aimez pas, c'est que le téléphone sonne pendant qu'ils dorment. Parce qu'il y a 2 chances sur 3 qu'ils se réveillent. Et cet ami m'a téléphoné à 11h30 du soir en me disant « Écoute Philippe, je suis là à la gare, il n'y a plus de bus pour remonter à la maison, est-ce que tu pourrais venir me chercher à la gare pour me ramener chez moi ?» À 11h30 du soir, je dormais profondément. Bien sûr, c'était mon ami. Et je savais en plus que sa femme était enceinte et qu'elle allait bientôt accoucher. J'ai dit « Mais je ne peux quand même pas laisser cet ami » parce que nous habitions sur la partie haute de la ville, c'était quelque part en banlieue, et la gare se trouvait tout en bas. Je me disais, je ne vais pas laisser une femme enceinte à 11h30 du soir, monter même au bras de son mari, monter et marcher pendant 45 minutes. Sinon, c'est peut-être à la clinique qu'il faudra l'amener tout de suite. Et alors, je suis allé. Pourquoi ? Parce que cet ami avait insisté. À presque à minuit, Jésus dit... Si cet ami vient voir son ami et lui dit « Prête-moi 3 pains, j'ai reçu de la visite et je n'ai pas de pain. » C'est vrai que les boulangeries ne sont pas ouvertes en général à 11h30 du soir. Jésus dit, et c'est ça qui est important, Jésus dit « Il ne se lèvera pas parce qu'il est son ami, mais parce qu'il insiste. » Parce que cet ami insiste, et dans la Bible que j'ai là, il est dit « Parce que son ami insiste sans se gêner. » Parce qu'il est 11h30, il est minuit. C'est le milieu de la nuit, dit l'Évangile. Alors, c'est une image que Jésus emploie pour nous montrer que quand nous prions, nous ne devons pas avoir peur de gêner Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de le perturber par nos prières. Nous ne devons pas nous dire « ça fait longtemps que je prie pour cela, je ne veux plus déranger Dieu ». Parce qu'on ne peut pas déranger Dieu. Dieu, dans cette histoire, veut que nous sachions qu'il veut que nous le dérangions. Il nous aime, bien sûr. Il est plus que notre ami. Il est notre Père. Mais il veut que nous soyons prêts à le gêner. Il y a un autre texte dans la Bible où il est dit qu'il y avait une veuve qui un jour voulait obtenir justice d'un juge. Et alors elle a commencé à... excusez-moi l'expression populaire en français, mais elle a commencé à lui casser la tête. C'est d'ailleurs dans certaines traductions de la Bible, c'est l'expression qui est employée. Elle a cassé la tête à ce juge jusqu'à ce qu'il lui rende justice. Et à la fin, il est dit, le juge a dit, je vais rendre justice à cette femme pour qu'elle arrête de me casser la tête. Et Jésus dit, c'est comme cela que vous devez faire avec Dieu. Dieu veut que nous lui montrions premièrement que nous comptons sur lui, que nous avons foi en lui, que nous croyons qu'il est un Dieu bon qui veut exaucer nos prières, et à la limite, il veut que nous lui, excusez-moi encore l'expression, mais comme elle est dans la Bible, je peux l'utiliser sans problème, il veut que nous lui cassions la tête. Vous savez que les enfants sont très forts là-dessus. Ceux qui ont des enfants, il y en a qui ont des enfants là parmi nous ? Pas encore ? Si ? Levez la main, n'ayez pas peur. J'en ai moi aussi, je sais ce que c'est. Alors je ne sais pas quel âge ils ont, mais j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'âge pour casser les pieds ou la tête aux parents. Je me souviens d'un jour, quand notre garçon donc était tout petit, à peu près à la même époque que l'autre histoire que je vous racontais tout à l'heure, un soir, je ne sais pas ce qu'il avait, il s'est mis à crier. Je crois qu'il avait faim. C'était pas tout à fait l'heure. Mais il s'est mis à crier. Alors au début, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, bon, attends un peu, il va se calmer, c'est pas encore tout à fait l'heure, c'est dans trois quarts d'heure. Il a continué à crier. Alors on a commencé à se regarder, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va attendre, il va finir par s'arrêter. Et il a continué, à crier. Je pensais qu'il allait avoir moins de souffle et se calmer. Mais vous savez ce qui s'est passé pour terminer? C'est que nous avons dû lui donner à boire. Nous avons dû lui donner le biberon avec une petite demi-heure d'avance. Pourquoi? Parce qu'il n'arrêtait pas. Il nous cassait la tête ou les pieds. Hein, c'était les deux, je crois, en même temps. Il avait décidé qu'il avait faim et qu'il voulait manger. Eh bien, voilà comment Dieu veut que nous prions. Et je me rappelle qu'à l'époque, nous avons eu cette réflexion. C'est peut-être comme cela, je me rappelle que nous avions dit ça avec ma femme, c'est peut-être comme cela que Dieu veut que nous prions, jusqu'à ce que nous obtenions ce que nous demandons. Alors, que Dieu nous aide, et que Dieu nous aide à nous rappeler qu'il veut que nous prions, premièrement, je rappelle, en nous rappelant que Dieu est là, qu'il est présent, qu'il nous entend. Il veut que nous prions avec ferveur, avec conviction, avec foi. Il veut que nous prions en étant bien concentrés sur ce que nous faisons, sans penser à autre chose. Vous savez, quelquefois, il arrive que nous commencions à prier et puis notre esprit s'en va un petit peu, nous pensant à autre chose. Ce n'est pas cela la clé du succès dans la prière. Et il veut enfin que nous prions même comme si nous pouvions le perturber, le gêner, et pour reprendre l'expression de l'Évangile, lui casser la tête. Dieu veut que nous prions avec foi et avec persévérance. Dieu veut que nous prions avec énergie. Alors que le Seigneur nous aide à tirer la leçon de ces textes et de cet enseignement de la Bible, prier sans cesse, c'est prier en étant constamment en communion avec Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on prie du matin au soir et du soir au matin, parce qu'il faut travailler, il faut manger, il faut faire plein de choses. Mais cela veut dire que nous soyons à tout moment prêts à parler à Dieu de cette manière-là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.